Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Dupond-Moretti.
Bonjour madame.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de la Justice, de très nombreuses questions à vous poser sur la justice des mineurs, sur les violences de plus en plus violentes, sur la question des jeunes. Nous proposons plus de fermeté à tous les étages. Voilà ce qu'a promis Emmanuel Macron hier. On va y revenir et vous allez nous expliquer comment ça peut marcher. Mais d'abord, je voudrais savoir si vous avez des nouvelles de Mohamed Amara. Parce que c'était il y a un mois tout pile, que Mohamed Amara s'est échappé en tuant deux agents pénitentiaires. Ça fait un mois qu'il est en cavale. Avez-vous des nouvelles? Avez-vous des pistes? Est-ce qu'il y a des réponses?
Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs centaines d'enquêteurs. Le parquet de Paris, totalement mobilisé pour qu'on le retrouve. Et je pense que, d'abord, on le doit à la justice. On le doit aux familles et on le doit également à l'administration pénitentiaire que je vais rencontrer d'ailleurs cet après-midi. Et c'est une annonce que je vous fais. Nous allons signer un protocole qui renforce évidemment la sécurité des agents pénitentiaires.
Un protocole qui renforce leur sécurité. Mohamed Amara, on a aussi découvert comment il vivait au sein de sa prison. Tu vas me filer 2 kilos d'héro tout de suite, il n'y a pas demain. Non, c'est là, tout de suite, 18h53, je te dis, je joue pas à cache-cache. Et il appelle un autre et il lui dit, dis-lui que je vais envoyer quelqu'un chez lui, il va lui arracher les cheveux, mettre le feu à son gosse, écrase-lui la tête et jette-le dans la Seine. Ces propos, ils ont été tenus au téléphone par un homme qui est dans une prison. Comment c'est possible?
Comment ils arrivent, les téléphones en prison?
9 téléphones.
Ils arrivent par les familles, parfois et à titre tout à fait résiduel, exceptionnel, grâce à de la corruption, et ils arrivent aussi par les airs, si j'ose dire. Nous avons fait en sorte de mettre en place des brouilleurs. Mais ils ne sont pas, pour des raisons technologiques d'ailleurs, efficaces à 100%. Nous avons mis en place des systèmes anti-drones. On doit aller encore plus loin. Sachez par exemple que les fouilles ne sont plus permises depuis 2009. Il faut une modification législative.
Est-ce que vous pourriez rétablir les fouilles
bien
à l'entrée
sûr, madame,
du parloir?
Parce que
si je vous pose toutes ces questions, Éric Dupond-Moretti, vous le comprenez bien, c'est que quand on a Emmanuel Macron hier qui dit « Je promets une autorité républicaine à tous les étages » et qu'effectivement depuis un mois, jour après jour, parce que ces dernières révélations sur les propos tenus au téléphone, elles datent d'hier, mais depuis un mois, on découvre ce qu'était la vie en prison d'un homme extrêmement dangereux qui avait sa chicha, qui bougeait de cellule en cellule d'ailleurs. Quand il bougeait de cellule, la chicha bougeait aussi. Et il la retrouvait dans une autre cellule, qui organisait le trafic et qui passait ses ordres depuis sa cellule, jusqu'à 9 téléphones qui se faisaient livrer des cartes, des téléphones, de quoi manger, sa consommation de cannabis, et qui recevait sa copine sous prétexte que c'était sa sœur, avec des gardiens qui constataient et qui l'indiquent dans leur compte rendu que jour après jour il y avait des rapports sexuels, mais qui continuaient à dire que c'est sa sœur. Il y a quand même peut-être un truc qui va pas.
Oui, je pense que il y a une philosophie peut-être de la paix sociale, et moi je veux totalement changer de braquet et de paradigme.
Totalement changer de braquet.
Totalement, madame. Je pense qu'il n'est pas normal, et tous les Français sont d'accord avec moi, qu'on puisse en prison disposer d'un téléphone portable. Je demanderai à ce qu'il y ait des poursuites systématiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais prendre des circulaires fermes, comme toutes les circulaires que j'ai prises. Je veux que l'on revienne sur la question des fouilles. Je veux qu'il y ait un traitement particulier de ceux qui sont des narcotrafiquants. Et la question d'ailleurs pour Amara est de savoir si la pénitentiaire disposait de renseignements permettant de le considérer comme un voyou du haut du spectre. Est-ce que tout a été transmis? C'est d'ailleurs l'objet.
Vous avez demandé une enquête administrative.
Absolument. Et je dirais ce qu'elle contient. Parce que pour que l'on avance, il faut que l'on avance dans la lucidité, dans la clarté et dans la transparence. Et je veux dire très clairement que nous allons accélérer les brouilleurs, même s'il y a un certain nombre de difficultés techniques. Je veux également vous dire, parce que les choses ne sont pas simples, elles ne sont pas binaires, que certains téléphones sont tellement plastifiés qu'ils sont aujourd'hui indécelables. Donc il y a tout un travail à conduire de fermeté, et moi je m'y engage, aussi de technologie, pour qu'il n'y ait plus de téléphone portable en prison. et que les narcotrafiquants ne puissent plus faire leur trafic. D'ailleurs, vous savez qu'après les opérations Place Nette, ou plus exactement pendant les opérations Place Nette, j'ai demandé des opérations cellules nettes. On a saisi beaucoup de portables. On va expertiser les puces et ce que contiennent ces portables pour permettre à la justice de faire mieux son travail.
Vous comprenez que, évidemment, quand on vous entend ce matin, on se dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt ?
Ben, je vais vous le dire, madame. Parce que on est parti de rien. Il y avait zéro brouilleur en 2017. Il faut les installer, il faut budgéter ces mesures. Il y avait zéro système anti-drone. D'ailleurs, on ne connaissait pas les drones à l'époque. Mais quand vous parlez de système anti-drone, il y a aussi la question des filets qui doivent protéger les établissements pénitentiaires. Tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il n'y a que ceux qui sont dans l'opposition qui peuvent le dire. Et d'ailleurs, hier, dans le discours du président de la République, il exprime très clairement la frustration que l'on peut avoir entre l'annonce d'une mesure et sa mise à exécution. Vous voyez, il faut un peu de temps pour faire tout cela. Donc là, il y a un certain nombre de mesures qui seront prises, qui seront signées cet après-midi avec la pénitentiaire.
Cet après-midi avec la
pénitentiaire.
Bien sûr.
Et puis, pardon.
La justice des mineurs, Éric Dupond-Moretti. Je voudrais y venir, parce que c'est aussi un des points qui a été énormément débattu ces derniers temps, notamment après les drames de Samara, de Shamsidine, qui a été tabassé à mort devant son collège. La question de la justice des mineurs. Allez-vous, oui ou non, modifier cette justice des mineurs ?
Oui, madame, on y travaille, et pas ici, à cause, si j'ose dire, de la campagne législative qui s'ouvre. Il y a des mois que l'on travaille sur un certain nombre de mesures. Je vais vous en donner une. Un mineur, aujourd'hui, quand il commet un crime, peut être évidemment placé en détention, et c'est souvent la règle. En revanche, un mineur qui n'a jamais été condamné ne peut pas être emprisonné, sauf si on a recours à une information judiciaire, ce qui a, vous avez compris, pour effet d'allonger, évidemment, et d'alourdir la procédure. Je veux, c'est une mesure de fermeté, de radicalité, qu'un mineur, s'il commet un fait grave comme premier fait, parce que s'il n'a pas commis antérieurement
de fait, il n'aura pas besoin d'être dans une récidive.
Absolument, madame, on puisse envisager son placement en détention.
Immédiate.
Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup consulté, parce que là encore, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il n'y a que les oppositions qui ont la baguette magique. Je vais vous faire remarquer d'ailleurs que on a d'abord réformé le code de justice pénale des mineurs. Il a fallu 10 ans pour le faire. Et il porte ses fruits, ce nouveau code de justice pénale des mineurs, notamment en matière de réduction des délais. Mais s'agissant de cette mesure forte que je veux prendre, bien sûr que j'ai consulté tout le monde, comme je le fais habituellement. Et les procureurs m'ont dit, mais là, on a une difficulté, c'est qu'il faut, pour incarcérer, que l'on ait recours. Je vous donne un exemple. Un mineur vole le sac d'une vieille dame. Circonstances atténuantes, la vulnérabilité, bien sûr, et peut-être même la réunion, souvent...
Aggravante, vous voulez dire ?
Oui, qu'est-ce que j'ai dit ?
Vous avez dit atténuante.
Oh, pardonnez-moi. Aggravante, bien sûr. Circonstances aggravantes, il en faut deux pour que l'on soit sur une certaine gravité quant aux peines encourues. Alors, aujourd'hui, si le procureur veut que les jeunes interpellés soient placés en détention, je viens de le dire, il faut avoir recours à l'ouverture d'une information.
Des
délais, de la lourdeur, etc.
Ça, vous faites lever ça.
Et
vous faites sauter
oui,
ça.
Madame. Oui, madame. On est,
vous faites sauter quand
Écoutez, on a un texte qui est prêt.
Oui, enfin, vous comprenez bien que si je vous pose cette question, c'est que le texte, il est prêt. Mais bon, là, dans les circonstances, pas
madame,
sûr que vous puissiez y travailler.
Il ne va pas vous échapper, il ne vous échappe pas qu'il faut un Parlement, donc une Assemblée nationale et un Sénat, mais le texte est...
Disons que dans ces cas-là, c'est un ça fait partie du programme
mais
de votre...
De la même façon, j'ai annoncé un certain nombre de mesures concernant le haut du spectre de la délinquance et en particulier la lutte contre le narcotrafic. J'ai un texte qui est prêt.
Maintenant, je vais vous reposer la question, Éric Dupond-Moretti.
Et
on va reprendre votre
Parlement.
Exemple. Votre exemple du jeune qui s'en prend à cette vieille dame et à son sac à main. S'il a 16 ans, si je comprends bien, votre texte pourra avancer vers cela. S'il a 13 ans,
il y a déjà un certain nombre de mesures. La question que vous posez, c'est celle...
En fait, à quel âge vous mettez le niveau ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fallait qu'il ait 18 ans pour pouvoir être retenu immédiatement. Vous dites, ça, je vais l'abaisser. Mais vous l'abaissez jusqu'où ? C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est 16 ans,
mais
c'est 15 ans, c'est 13 ans ?
Il y a deux régimes, madame. Et voyez-vous, la difficulté, je veux quand même l'évoquer, c'est que le régime des 13, 16 et des 16, 18 ne sont pas les mêmes, et il y a un certain nombre de prescriptions constitutionnelles. Il y a un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel, je ne veux pas être trop technique. Il y a plusieurs décisions qui rappellent que la justice des mineurs est une justice qui reste une justice spécifique.
Je vous pose ma question, imaginons, il a 15 ans.
Et, madame, je viens de vous dire, 13, 16, et même en dessous de 13, s'il y a
du 17. Ce que vous me disiez là sur le jeune avec le sac à main, c'est s'il a 16 ou entre 16 et 18.
On peut envisager des mesures.
Mais pas moins de 16.
Non, on peut envisager des mesures qui sont des mesures coercitives. Mais madame, aujourd'hui, vous avez cette difficulté. Les procureurs l'ont exprimé.
Mais c'est ce que je vous dis.
Et il faut que je le prenne en compte.
C'est une difficulté. On en fait quoi de cette difficulté? Dans la mesure où, et là, tous les chiffres le montrent, on parle d'une violence de mineurs de plus en plus violente et de plus en plus jeune.
Mais il y a un certain nombre.
On change pas la barre.
Madame, il y a un certain nombre de jeunes de moins de 16 ans qui sont aujourd'hui en détention, qui sont aujourd'hui dans les centres éducatifs fermés, qui sont aujourd'hui dans les centres éducatifs renforcés. Et je voudrais vous dire quelque chose. D'ailleurs, j'y fais venir, là, en plein accord avec Gérald Darmanin, des policiers et des gendarmes qui vont, à côté des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, amener un peu de république, un peu d'ordre, un peu de fermeté républicaine.
Comment on fait pour amener un peu d'ordre, un peu de république, un peu d'autorité?
Quand vous avez des enseignants qui sont policiers et gendarmes, voyez-vous, ça permet d'établir avec le mineur un rapport qui est un rapport que, personnellement, j'appelle de mes voeux.
Éric Dupond-Moretti, vous avez dit que la justice, elle était plus rapide. Alors, la justice des mineurs, on va être très précis, elle est plus rapide parce qu'elle a été coupée en deux. C'est-à-dire que désormais, il y a deux audiences. Une première audience pour dire si oui ou non le jeune est coupable. Une deuxième audience pour énoncer la sanction. Ça veut dire que ça permet en effet de juger plus vite, mais ça permet pas de punir plus vite.
Ça permet, madame, de juger plus vite. Et pendant la période qui sépare l'audience de culpabilité et l'audience qui est destinée à fixer la peine, il y a, pardonnez-moi, un suivi. Et un suivi qui est un suivi de proximité. Pourquoi ? Parce que le gamin qui est condamné, il sait qu'il doit recevoir la peine qu'il mérite, et entre les deux, il est suivi.
Oui, mais on a vu dans le cas de Shams Idine que l'un des jeunes était précisément dans ce moment, dans ce petit laps de temps.
Vous pourrez toujours me prendre un cas particulier où ça n'a pas fonctionné. Je l'entends, c'est ce que j'ai appelé, et je l'ai déjà dit devant vous, la fait diversification de la justice. Il faut quand même savoir que on est parti d'une ordonnance de 45, mythique ordonnance du général de Gaulle. On s'est rendu compte que la délinquance des mineurs avait évolué. On l'a modifié. Ce texte a fait l'objet d'ailleurs d'un... J'ai d'ailleurs vous rappelé que Marine Le Pen elle-même a dit que ce texte allait dans le bon sens. Voilà. Bien. Et il va dans le bon sens. Maintenant,
c'est quoi comme argument, ça, Éric Dupond-Moretti?
De quoi?
Marine Le Pen a approuvé, vous voyez, ça veut dire que ça va dans le bon sens.
Non, ce que je veux dire, madame, c'est que...
Vous avez connu assez différent dans vos arguments.
Mais pas du tout, vous ne me laissez pas le développer, je vais le faire. Madame Le Pen a dit que ce texte allait dans le bon sens, et Monsieur Bardella a critiqué ce texte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais...
Monsieur Bardella qui, lui, propose des peines courtes et immédiates pour les mineurs, ce qui est à peu près ce que vous nous énoncez ce matin.
Oui, mais madame... ils n'ont pas comme référence la Constitution, ni d'ailleurs l'État de droit.
Oui, enfin, c'est la même proposition.
Moi, ce que je fais, c'est à la suite d'un travail de concertation, et c'est pas dans de la démagogie. Donc j'ai dit oui, qu'il y aurait cette possibilité
de
passer...
Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. C'est-à-dire, il y a la bonne proposition et la mauvaise proposition, mais c'est la même proposition.
Mais non, madame. Ça n'a pas été proposé. En tous les cas, pas de cette façon. Ce que dit le Rassemblement National... c'est que c'est sévérité à tous les étages, sans discernement et sans même prendre en compte les impératifs constitutionnels. Nous, on est sérieux. Vous voyez, moi, je ne fais pas de fausses promesses. C'est un long travail. J'ai consulté beaucoup de monde et le monde que j'ai consulté, je le pense, n'a pas été consulté par M. Bardella. De qui s'agit-il ? Il s'agit des procureurs de notre pays, des procureurs généraux, des policiers, des gendarmes, des avocats, de tous ceux qui sont des professionnels de la justice. Et, pardon de vous le dire, ça prend du temps. Mais notre intention est effectivement de régler ces difficultés. Mais voyez-vous, la délinquance des mineurs, elle a bougé. Peut-être pas en nombre, mais en intensité, c'est une réalité. Et les causes de cette délinquance sont des causes qui, il y a de cela encore quelques années, nous étaient inconnues. Le président de la République a évoqué hier, par exemple, les écrans, les réseaux sociaux qui ont effectivement un rôle dans la
délinquance. Emmanuel Macron,
il faut travailler à tout cela de façon sérieuse.
Emmanuel Macron qui dit qu'il veut interdire les téléphones portables aux moins de 11 ans. Je vous reprends le début de notre interview. Un homme qui est en prison, à la prison de la santé, dont on contrôle les faits et gestes, il a 9 téléphones portables.
Je vous ai répondu.
Donc on n'arrive pas à interdire un téléphone portable dans une prison, madame, 9 téléphones
madame,
portables, mais on va interdire les téléphones
madame,
portables des jeunes de 11 ans.
Je crois que vous devriez venir 15 jours à mes côtés et vous verriez.
Mais je ne demande que ça. Observer, comprendre.
Deux secondes. C'est beaucoup plus facile de commenter. Vous êtes dans l'IACA, Faucon, faudrait peut-être. Moi, je vous dis, madame, que les choses sont complexes. Pourquoi elles sont complexes?
C'est la faute des journalistes.
Madame, c'est pas du tout ce que je dis, madame Demalé. Je viens de vous expliquer que nous avions affaire à des phénomènes de drones, par exemple, ça n'existait pas. Il faut le temps de réagir, de mettre en place. Je viens vous expliquer qu'un certain nombre de portables sont tellement plastifiés qu'ils ne sont pas décelables. Qu'un certain nombre des outils permettant de déceler des métaux ne fonctionnent pas en prison parce que les murs sont métallisés. Je viens vous expliquer, madame, que nous avons mis en place des brouilleurs, que nous avons mis en place des systèmes anti-drones, que nous avons mis en place des filets, qu'il y a pas loin de 200 établissements pénitentiaires, que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Voilà ce que je vous dis. Mais ma volonté, elle est très claire. Je trouve totalement anormal qu'il y ait un téléphone portable en prison. Je dis que les parquets, désormais, poursuivront tous ceux qui ont des portables. Je dis qu'il y aura des répercussions sur les réductions de peine. Je rappelle d'ailleurs que, à ce propos, j'ai viré les réductions de peine automatiques pour les remplacer par des réductions de peine à l'effort, et que parallèlement à cela, j'ai mis en place un contrat du détenu travailleur parce que je veux que l'on travaille en prison.
Éric Dupond-Moretti, les juges ne sont pas politiques. Le syndicat de la magistrature appelle cependant dans un communiqué hier à manifester samedi à Paris. Est-ce leur rôle ?
Le Conseil supérieur de la magistrature a dit qu'ils avaient une liberté totale d'expression. Moi, je suis respectueux des institutions. Si vous me posez la question à moi, je pense que c'est pas leur rôle. Mais je n'ai rien à dire là-dessus. C'est leur liberté et elle s'exprime, madame, en des termes que vous venez de rappeler.
Ça vous choque ?
C'est pas le rôle d'un syndicat de magistrats. Ça donne à voir que certains magistrats sont politisés. Je dis bien certains. Et moi, je veux pas qu'on mette tout le monde dans le même sac, voyez-vous ? Parce que, quand même, la grande majorité des magistrats de notre pays, des greffiers, des avocats, des contractuels, sont des gens qui travaillent bien. Et depuis quelques mois, puisque vous me parlez du bilan, je veux vous dire que nous avons en matière civile un déstockage très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice est rendue plus vite. Ça veut dire également que les magistrats se sont emparés de ce que nous avons mis en place, la politique de l'amiable, qui permet de passer de 3 à 4 ans pour un litige à 4 mois. Mais tout ça n'est pas suffisant. Et quand on a l'honneur d'être un ministre régalien comme je le suis, on ne peut jamais se dire que tout est réglé. Voilà, madame, ce que je peux vous dire. Il faudrait heures pour évoquer le bilan et les choses qui restent à faire.
Est-ce que vous serez candidat, Éric Dupond-Moretti ?
Je serai là où le président de la République me demandera d'aller. Ce que je peux vous dire, c'est que quelle que soit la place qui sera la mienne, je me battrai. Je ne veux pas que notre pays tombe dans les mains des extrêmes. Extrême gauche, enfin, Monsieur Poutou, Madame de Malherbe.
Le NPA.
NPA anti-flic. Lorsque on tire des mortiers à La Courneuve sur le commissariat, ce monsieur dit, quel joli feu d'artifice. Mais vous imaginez?
C'était lors des émeutes.
Et sur le Hamas, il estime que c'est un acte de résistance. Mais c'est une honte absolue. Honte à ceux qui se marient avec ces gens du NPA.
Et monsieur, le NPA dont je précise, je recevais Olivier Faure sur RMC matin, qui dit qu'en effet, il pourrait y avoir quelques circonscriptions de cette coalition de gauche qui sont octroyées au NPA.
Mais c'est lunaire de dire des choses comme ça. Monsieur Faure, il a vendu le Parti Socialiste, qui était un grand parti de gouvernement, pour un plat de lentilles, pour quelques places. Et d'ailleurs, qui serait s'il gagnait, si par malheur il gagnait le Premier ministre ? Monsieur Mélenchon ?
Il s'est dit prêt, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, Monsieur Boyard, Madame Panot, c'est ça qu'on veut pour la France. Et de l'autre côté, excusez-moi, mais l'escroquerie démocratique, il y a des gens qui ont voté pour Monsieur Zemmour et qui se sont ralliés à sa bannière. Et aujourd'hui, ceux qui faisaient partie de son équipe retournent, si j'ose dire, dans la famille originelle. Marion Maréchal Le Pen. Mais les électeurs qui ont voté Zemmour et qui voient les zémouristes, les zémouriens, je ne sais pas comment il faut les appeler, repartir au RN, mais qu'est-ce qu'ils se disent? On est cocus. Comme d'ailleurs, les électeurs de Raphaël Glucksmann sont aujourd'hui cocus. Et quand le président de la République dit « Moi, je souhaite une clarification », elle est en cours, là. On voit ce qui se passe. Certains LR, l'extrême droite, l'extrême droite qui se rallie à l'extrême droite. Et côté gauche, Monsieur Poutou. Mais dites-moi, vous avez vu des images de l'Assemblée nationale? Est-ce que les Français ont envie d'un Parlement comme celui-là? La réponse, à mon avis, elle est non. Et le président propose une clarification. Il a dissous l'Assemblée nationale pour obtenir cette clarification. Et je pense que petit à petit, les masques vont tomber.
Éric Dupond-Moretti, merci d'être venu ce matin répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.